C'est mercredi et comme chaque mercredi à 21h sur Radion, le moment est venu de retrouver votre rendez-vous littéraire. C'est effectivement Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Alors ce soir, nous allons être happés par un roman, un gros roman de plus de 500 pages, sorti il y a, je crois au mois de mars, 3 avril, début avril de cette année 2014, aux éditions du Seuil. C'est un roman fresque, un roman vrai, nous dit la quatrième de couverture, un roman qui trouve le souffle pour raconter plus de 2 siècles du combat de la gauche française révolutionnaire, en partant donc de la Révolution française, en passant par la Commune, le Front populaire, la Résistance, jusqu'à l'élection de François Mitterrand en mai 81, la chute du mur de Berlin en novembre 89, et puis la disparition de l'URSS en 91. Enfin, c'est une fresque historique et sociale qui ressuscite aussi l'histoire familiale de la narratrice et de l'auteur qui est ce soir devant notre micro. Il faut le dire aussi que c'est un premier roman. Pascal Fautrier, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous d'être devant le micro de Radion. Il me faut, pour être complet, préciser que ce numéro de Wagon Livre a été enregistré le 27 juin dernier en public. Merci public fidèle et chaleureux. Une émission donc enregistrée en public lors des apéros de la librairie L'Autre Monde, 42 Grande Rue à Avallon. Je remercie toute l'équipe de L'Autre Monde et tout particulièrement donc Evelyne Levallois qui nous accueille et nous permet de partager avec vous ces rencontres littéraires conviviales régulièrement organisées dans sa librairie à Avallon. Alors Pascal Fautrier, je vous présente et ensuite je vous donne la parole. Vous êtes agrégé de lettres, spécialiste de Simone de Beauvoir et de Nathalie Sarraute. Vous tenez un blog sur Mediapart et vous êtes l'auteur déjà chez Gallimard, s'il vous plaît, de 2 biographies, l'une entièrement dédiée à Chopin, l'autre consacrée à Napoléon Bonaparte, et puis vous avez aussi fait un dossier
chez Gallimard, et puis une édition commentée d'une pièce de Nathalie Sarraute chez Gallimard également.
Alors Les Rouges, c'est le titre de votre roman, je l'ai dit, gros roman de plage. Plus de 500 pages, il faut du temps pour vous lire, Pascal Fautrier. Alors, c'est un roman en 3 parties, ambitieux sur le plan littéraire, ambitieux aussi dans cette quête documentaire, parce que j'imagine qu'il y a eu un gros travail de recherche, de documentation, travail aussi sur votre famille. Alors, la quatrième de couverture dit qu'il s'agit d'un roman vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un roman vrai? J'allais dire, qu'est-ce qui est faux dans ce roman, alors?
D'abord, je vous remercie de m'accueillir et je remercie aussi la librairie L'Autre Monde d'Avalon de m'accueillir ce soir. Qu'est-ce qu'un roman vrai? C'est un concept qui a été élaboré par un écrivain qui s'appelle Philippe Forest. Et il s'agit d'abord et avant tout d'humilité, c'est-à-dire la réalité, la vérité, on ne peut pas toute la dire. Ça, c'est une première chose. Et d'autre part, lorsqu'on invente, on invente à partir du vraisemblable, c'est-à-dire à partir du monde tel qu'il est. Donc l'humilité, elle est à la fois de n'être pas dans une invention des personnages. Il n'y a pas de personnage inventé, quoi qu'il y a des personnages hybrides, dans surtout à la fin du roman, personnages qui sont constitués en réalité de 2 ou 3 personnages sources. Donc il y a des choses fausses, en effet, puisqu'il y a des personnages qui n'existent pas dans la réalité, mais qui sont composites, qui sont composés de 2 ou 3 personnages, de 2 ou 3 personnes véritables, disons, comme source d'inspiration. Et c'est un roman vrai malgré tout, parce qu'il s'agit d'avoir l'ambition de dire quelque chose de l'histoire réelle, et notamment de l'histoire de cette gauche populaire, de cette gauche des militants de base, comme on dit, depuis 2 siècles dans Lyon et à Paris.
Alors, il y a 3 Madeleines, je dirais presque 4. Il y a la Madeleine de Vézelay,
oui.
Il y a Madeleine, la grand-mère.
Oui. Mmh.
Et puis, il y a Madeleine, la narratrice, qui vous ressemble étrangement.
Oui.
Mmh. Nous sommes d'accord.
Oui.
Trois Madeleines. Il y en a une quatrième, c'est la fille unique de Jaurès, qui se prénomme Madeleine.
Absolument.
Bon, elle n'a pas de rôle dans le roman. Mais les trois Madeleines, c'est la Madeleine de Vézelay, la grand-mère, qui a eu un rôle important sur la narratrice. Et j'imagine que cette grand-mère Madeleine, c'est votre Madeleine, l'épouse de Camille. Donc, c'est vos grands-parents,
oui.
Migénois, mmh. Militants communistes, jusqu'à ce qu'ils quittent le parti, bien à regret d'ailleurs.
Oui, dans les années 70. Alors il y a une cinquième Madeleine, c'est Madeleine de Proust.
Ah oui, parce que justement au début, effectivement, le roman commence par le côté de Mailly-la-Ville. Alors il y a aussi effectivement
c'est un clin d'œil,
proustien. Voilà.
Plein d'humilité, encore une fois. Mais oui, la mémoire est essentielle dans ce livre. Et cette mémoire, il se trouve qu'elle m'a été transmise par ma grand-mère, en effet, qui est née à Mailly-la-Ville, donc à, je sais pas, 30 kilomètres d'ici, je sais pas, oui, quelque chose comme ça. Elle est donc née à Mailly-la-Ville. Et il se trouve que ma grand-mère était, d'une part, une grande parleuse, une grande raconteuse d'histoires, et qu'elle m'a raconté des histoires qu'on lui a à elle-même racontées, et que des gens qui ont vécu au début du 19e siècle lui ont raconté. Donc du coup, cette transmission mémorielle, ça donne une épaisseur historique comme ça de deux siècles d'histoire. Et la raison pour laquelle j'ai nommé ou j'ai prénommé Madeleine, à la fois ma grand-mère qui était vraiment la source de ce personnage, et puis mon double en quelque sorte, peut-être que je pourrais m'expliquer sur ce dédoublement de la narratrice, c'est que précisément cette transmission mémorielle, elle est au centre, et que d'autre part je pense que nous ne sommes pas des individus enfermés sur nous-mêmes, des monades solitaires. Nous sommes ce qu'on nous a raconté. Nous sommes les expériences léguées par nos ancêtres, même ceux qu'on n'a pas connus. C'est-à-dire, les histoires ont un effet sur les vies, même lorsqu'on n'a pas connu les personnages dont il s'agit. Donc c'est pour dire cela que j'ai prénommé de la même manière la grand-mère et la petite-fille. Pour dire qu'on a affaire dans sa propre vie aux expériences antérieures, et que dans le fond, ce qu'on fait dans la vie, eh bien, c'est pas tout à fait librement qu'on le fait. C'est aussi en fonction de repères qui ont été construits grâce aux histoires qui nous ont été racontées, ou à cause des histoires qui nous ont été racontées, parce qu'on fait aussi des erreurs parfois à cause de cela. Voilà.
Mais il y a bien quand même, auprès de la narratrice et auprès de vous, un culte de ces ancêtres paysans, bouffeurs de curry. Il y a quand même un culte qu'on entretient.
Oui, il y a même un sentiment de mission, alors de ma part à moi, un sentiment de mission qui vient du fait que dans les années 80, 90, c'est un petit peu moins vrai je trouve depuis quelques mois, mais j'ai eu le sentiment, moi, d'être porteuse d'une mémoire qui avait complètement disparu. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus le droit de citer, dont personne ne parlait, qui était cette mémoire du mouvement ouvrier, cette mémoire de cette gauche populaire, dont je pense qu'elle a fait la démocratie, qu'elle lui a donné un contenu réel à cette démocratie, et dont finalement personne ne parle nulle part, jamais. Et je me suis sentie une sorte de mission qui était d'inscrire dans une langue littéraire, d'inscrire dans la littérature, donc il y a en effet une ambition littéraire, à la fois la langue, les manières d'être et le combat de ces gens, dont mes ancêtres. Mais c'est un roman aussi parce qu'ils sont eux-mêmes et ils ne représentent pas qu'eux-mêmes dans le livre. Hein. C'est-à-dire que je crois qu'on peut se reconnaître, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître dans les combats qui sont racontés dans ce livre.
Combat, mission, vous établissez, me semble-t-il, un parallélisme entre, par exemple, l'appel à la deuxième croisade du cistercien
Bernard de
Clairvaux, merci beaucoup, et donc on est en 1146,
oui.
Et il y a un parallélisme aussi avec l'enterrement de Camillina, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'un comme l'autre ont mené une croisade, qu'ils ont eu en tout cas un idéal, Il y a un parallélisme que vous établissez entre cette gauche communiste, c'est surtout, révolutionnaire.
C'est surtout pour, disons que cette rencontre qui ouvre le livre entre effectivement le Bernard de Clairvaux prêchant la seconde croisade à Vézé en 1946 et puis l'enterrement de Camillina en 1932, d'une certaine manière, c'est une rencontre qui paraît a priori assez surréaliste. Ça paraît ne rien. J'ai voulu la produire une sorte de choc, mais c'est parce qu'aussi, disons qu'il y a des chocs, des choses qui se sont entrechoquées dans ma mémoire et dont je ne comprenais pas moi-même le lien. Par exemple, le fait que ma grand-mère adorait les religieuses de Port-Royal, alors qu'elle était athée et communiste. Et puis, en effet, elle adorait Vézelay. C'est-à-dire qu'on allait à Vézelay comme on entrait en religion, et en même temps, on était anticuré, complètement anticlérical, très violemment anticlérical dans la famille. Donc voilà, c'est quelque chose auquel j'ai eu affaire. J'ai eu à comprendre cette contradiction qu'il y avait là. Et j'ai voulu aussi, à l'orée de mon livre, que le lecteur ait affaire avec ce choc-là. Mais par ailleurs, il y a une idée sous-jacente au livre, donc allons tout de suite peut-être au fait. Je ne parlerai pas du tout de croisade, mais je parlerai de foi. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a une conviction qui est sous-jacente au livre et qui est la mienne, et qui est qu'un certain engagement politique, notamment populaire, et là je ne parle pas des gens de pouvoir, je parle vraiment des gens de la base, des gens qui parfois ont payé leurs engagements de leur vie, mais qui en tout cas ont vécu de leurs engagements, il y a dans cette pratique politique quelque chose qui relève de la foi. Donc c'est quelque chose que je suis prêt à soutenir, on peut en discuter, et qui par ailleurs historiquement se trouve être dans une certaine continuité, discontinuité avec l'histoire du christianisme. Oui.
On va marquer un premier temps de pause musicale, Pascal Fautrier. L'histoire de la gauche révolutionnaire souffle ce soir à bord de Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h, en compagnie donc de Pascal Fautrier, romancière, venue nous présenter donc son premier roman intitulé « Les Rouges » aux éditions du Seuil. Alors, on reste dans la thématique de votre roman, puisqu'on écoute un titre, alors que moi je connaissais, interprété par Jacques Brel. J'ai choisi Jaurès, mais interprété par le groupe Zebda.
Très bien.
Alors on écoute Jaurès, interprété par Zebda.
Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant, les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents, entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être, 15 heures par jour, le corps on laisse au visage un teint de cendre. Oui notre monsieur, oui notre bon maître. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux de quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui notre bon maître, oui notre monsieur. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? 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 Par malheur ils survivaient, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir aux chants d'horreur leurs 20 ans qu'ils n'avaient plus naître. Et ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui notre bon maître, couvert de prêtres, oui notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? 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 Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Retour à bord de votre émission littéraire C'est Wagon Livre sur Radion, une émission enregistrée en public à la librairie L'Autre Monde à Avallon. Émission enregistrée en public le 27 juin dernier, alors que nos amis Carole Amicel et Evelyne Levallois accueillaient Pascal Fautrier pour son premier roman, Les Rouges, un roman fresque, disponible en librairie aux éditions du Seuil. Bien sûr, les personnages sont extrêmement nombreux dans le roman. Et ils illustrent, c'est un peu une défense et illustration de cette gauche révolutionnaire. J'aimerais, Pascal Fautrier, que vous nous parliez de celui qui est né à Mailly-la-Ville en 1840, Zéphirin Camélina, et qui a un parcours exceptionnel proche de Jules Vallès, qu'on rencontre dans cette épopée communaliste de la commune. Parlez-nous un petit peu de Zéphirin Camélina, s'il vous plaît.
Oui, alors Zéphirin Camélina, c'était d'une part... un grand homme dans ma famille, puisqu'il y a une sorte de culte de Zéphirin Camélina. Je crois que les gens de Lyon, malgré tout, en ont plus ou moins entendu parler tous. Bon, en effet, il est né à Mailly en 1840, et c'est un fils de carrier qui est lié à ma famille, dont la famille est liée à la mienne, puisque évidemment c'est petit village, donc il y a toujours des croisements et des recoupements, voilà. Généalogique, mais aussi parce qu'à la fin de sa vie, Zéphirin Camélina venait raconter son histoire chez mon grand-père, chez mon arrière-grand-père Jules, qui était donc le forgeron de Mailly-la-Ville. Et ce fils d'artisan de Mailly, il a été chassé de Mailly dans le fond très jeune par l'endettement paysan. À cette époque-là, donc les années 1830, 1840, 1850, il y a ce qu'on appelle l'exode rural. Qui est tout à fait important, les paysans et les fils d'artisans deviennent ouvriers dans les villes parce que la terre est rachetée notamment par des grands propriétaires terriens et par ailleurs parce que le peu de lopin de terre que possèdent les paysans a souvent été acheté à crédit avec des taux d'endettement terribles et des taux de je suis très nulle pour les histoires économiques, mais enfin les...
Ouais, bah, ne me regardez pas parce que je le suis aussi, alors je connais bien
les ruinait complètement. Donc Zéphirin a 17 ans, il est obligé de partir à Paris, dans le fond, pour faire vivre la famille, comme beaucoup de fils d'artisans et de fils de paysans. Et puis à la ville, il va retrouver des amis, des pays, comme on dit, de Mailly-la-Ville. Il va devenir d'abord fabriquer des tubes, mais il ne va pas se contenter simplement de toute sa vie fabriquer des tubes. Il va prendre des cours du soir, apprendre l'anglais, apprendre l'histoire, etc., et se perfectionner dans son domaine, devenir un ouvrier bronzier. Et non seulement il va devenir un ouvrier bronzier, mais il va devenir un ouvrier bronzier tout à fait remarquable, puisque on lui doit, par exemple, les bronzes qui sont, dans les gens qui connaissent l'Opéra de Paris, qui se trouvent sur Scribe, du côté gauche de l'Opéra de Paris. Bon. Et parallèlement, non seulement il va avoir ce parcours professionnel tout à fait remarquable, mais en plus, il va être un des fondateurs de la Première Internationale Ouvrière, et du Syndicat des Bronziers et de la Première Internationale Ouvrière avec Tolin, qui était également un ouvrier bronzier. Cette Internationale Ouvrière qui a été fondée en 1864 à Londres, en présence notamment de Karl Marx, qui représentait les ouvriers allemands. Une poignée d'ouvriers de Belgique, d'Allemagne, de Suisse, d'Angleterre et de France essentiellement vont donc fonder cette internationale dans l'idée de défendre les intérêts ouvriers avec des revendications. À l'époque, on a affaire à un capitalisme très, très sauvage qui fait travailler les enfants. Il est toujours pas mal, le sauvage, le capitalisme. Enfin, disons que ces ouvriers ont réussi à le civiliser quelque peu malgré tout. Ça a été des victoires importantes. Cette première internationale ouvrière, qui va donc appuyer la création ensuite de chambres syndicales à la fin des années 60, et puis de syndicats, etc., vont arracher des conquêtes ouvrières importantes, notamment la journée de 10 heures, et puis ensuite la journée de 8 heures, si on avance dans le temps, au début du XXe siècle, des garanties pour les retraites, pour les vieux travailleurs, qui à l'époque devenaient un poids pour tout le monde, et n'avaient aucune ressource, pour les malades également. Bon. Donc des caisses d'entraide sont créées en même temps que les syndicats. À l'époque, ce ne sont pas vraiment des syndicats au sens où on entend aujourd'hui, ce sont des caisses de solidarité, dans le fond,
des caisses d'entraide,
donc avec un esprit de solidarité qui est au fondement de cela. Donc voilà ce personnage. Et puis en 1870, lorsque Napoléon III, qui a engagé une guerre imbécile contre la Prusse, perd cette guerre et que la République est proclamée, Zéphirin Kamenna va faire partie de ces hommes qui considèrent qu'il ne faut pas capituler devant les Prussiens, à Paris notamment, et qui va fonder donc en mars 71, cette commune de Paris, où il s'agissait de prendre le pouvoir d'une manière totalement démocratique au nom des ouvriers et des artisans et du petit peuple parisien pour défendre des valeurs de liberté, pour défendre la République aussi contre les Prussiens. Et ces hommes et ces femmes vont se faire massacrer par la République naissante alliée aux Prussiens. Donc quelques semaines plus tard, Zéphirin échappe au massacre de très peu. D'autres noms, comme Eugène Varlin, je raconte sa mort. Il était directeur de la monnaie de la commune, c'est-à-dire qu'il avait, une fonction tout à fait importante et dont il s'est acquitté avec une remarquable honnêteté. C'est quelque chose qu'il faut absolument souligner. Et il va s'exiler grâce à de faux papiers, etc., en Angleterre. Et là, croisé Marx, c'est d'ailleurs assez fameux, lui est proudhonien, c'est-à-dire en courant du mouvement ouvrier. Alors j'ai aussi écrit ce livre pour qu'on sache qu'avant, disons, une certaine hégémonie intellectuelle du marxisme dans le mouvement ouvrier, il y a eu des courants intellectuels tout à fait importants, notamment du côté de Proudhon, de Louis Blanc, d'autres. J'esquisse simplement, c'est un roman, donc j'esquisse simplement les idées qui étaient défendues à l'époque par ce mouvement ouvrier naissant, qui était quand même essentiellement proudhonien et pas marxiste, c'est-à-dire pas collectiviste et pas centraliste. C'était des fédéralistes, des gens qui pensaient qu'il fallait s'organiser à la base, et puis qu'ensuite, par un système pyramidal, éventuellement on pouvait s'entendre avec des unités collectives plus importantes, mais il fallait d'abord s'entendre à la base. Donc Kamenna est proudhonien, il rencontre Marx, ça se passe pas très bien. Marx est un politique assez dur, je raconte dans mon livre. Et puis finalement, Kamenna veut tellement l'unité du mouvement ouvrier, mais ça sera inconstant dans sa vie jusqu'à sa mort, qu'il parvient à s'entendre avec Marx, et qu'il y a notamment un institut français de mémoire de la commune, qui est créé sous l'égide de Kamenna, et c'est Lisa Garay qui va écrire cette première histoire de la commune. Alors Marx, lui, a écrit déjà une histoire de la commune deux jours après, il a fini d'écrire son texte deux jours après la fin de la Semaine sanglante, un texte complètement extraordinaire qui a fait connaître la commune. Certes, Marx a fait cet effort, malgré ce que je viens de dire sur son caractère un peu difficile et dur politiquement, il a fait cet effort de donner à la commune un texte extraordinaire, malgré le fait qu'il n'était pas d'accord en fait avec les orientations de beaucoup de communards. Voilà. Donc cette rencontre avec Marx, voilà, je la relâche. Donc ce petit ouvrier qui vient, ce petit fils de paysan devenu ouvrier bronzier qui vient de Mali, rencontre Marx. Et ensuite, grâce à l'amnistie, donc la République française devient vraiment une république, la troisième à la fin seulement des années 1870. Et en réalité, le premier acte de la troisième république vraiment démocratique, c'est l'amnistie des communards, évidemment. Donc Camina va notamment grâce à Clémenceau, qui est un radical, bon, Camina va bénéficier de cette amnistie des communards, va revenir à Paris et va être élu député dans le 19e arrondissement, et va être un des deux députés ouvriers dont Marx, Marx va mourir très vite, mais que Engels est déjà mort d'ailleurs en 83, mais que Engels va suivre de très près, et il va rencontrer Jaurès. Très vite, Jaurès qui est un socialiste très très modéré lorsqu'il se fait élire pour la première fois au même moment qu'Amélina d'ailleurs, et qui va évoluer vers la gauche, c'est-à-dire notamment qui va prendre conscience de la question ouvrière et de la question sociale comme une question centrale de la politique et de la démocratie. Et ce compagnonnage de Jaurès et de Camélina, au travers de luttes dans les années 80-90, Jaurès va même se rapprocher des marxistes, même s'il vient d'ailleurs, notamment d'un chrétien, Jaurès, au départ. Les chapelles socialistes sont très éclatées, on a un mouvement ouvrier qui à ce moment-là est complètement éclaté, et Camélina va suivre les pas de Jaurès, parce que Jaurès va comprendre également qu'il faut réunifier tout ce monde. Et ce travail d'unification de Jaurès que Camélina va suivre. Du coup, il est un des fondateurs également de la Deuxième Internationale, la section française de la Deuxième Internationale en 1905 avec Jaurès, même si c'est pas tout à fait Jaurès en 1905, enfin peu importe, c'est le grand homme de la section française internationale, de la SFIO, hein, section française internationale ouvrière, en 1905. Et il va être trésorier dès le début de la SFIO jusqu'en 14, il va être, même plus tard, ben oui, jusqu'en 16, je crois, il va être le trésorier de la CFIO. Du coup, alors, Jaurès meurt, comme vous savez, on est en plein anniversaire de l'assassinat de Jaurès, quelques jours donc avant la déclaration de guerre. Jaurès était contre la guerre. Camélina, comme beaucoup de socialistes, va se rallier à la guerre, mais il va, dès 17, d'une part, soutenir la révolution russe, dans l'idée que c'est la même chose que la Commune de Paris, qui est bon, une idée un peu qui est à discuter, mais enfin, en tout cas, c'est ce qu'il pense à ce moment-là. Et d'autre part, il va comprendre également que cette guerre, qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec cette guerre de 14, et il va comprendre que Jaurès avait raison, finalement, de vouloir la combattre. Du coup, en 1920, lors de la scission, donc de cette scission des socialistes entre d'un côté le Parti communiste au Congrès de Tours et le Parti socialiste, il va se retrouver du côté communiste et il possède des actions d'humanité. Du coup, le Journal de l'Humanité va basculer grâce à Camélina du côté communiste.
Et puis, enfin, 1924, c'est une date importante.
Et puis en 1924, il va être le premier candidat à la présidence de la République. Communiste pour le Parti communiste. Alors, c'est pas du tout le même type de constitution qu'aujourd'hui. Donc, le président de la République n'a pas le même type de fonction. Mais enfin, effectivement, c'est une fonction importante et en même temps très symbolique, puisque le problème du Parti communiste à ce moment-là, ça va être d'unifier ce qu'on appelle les anarcho-syndicalistes, donc avec qui ont une sensibilité politique, disons, proche de celle de Camélina, le Camélina proudhonien et communaliste et communard. Et puis les marxistes. Donc le fait de mettre Camélina en avant pour le Parti communiste, c'est une manière de réussir cette jonction entre, à l'intérieur du Parti communiste, qui n'est pas évidente hein, dans les années 20, entre les anarcho-syndicalistes et les marxistes. Bon. Et du coup, en effet, en 1932, lorsque Camélina meurt, à Mailly-la-Ville, il y a d'abord une énorme manifestation enterrement à Paris avec le comité central du Parti communiste. Au grand complet, Corrèze est en train de prendre le pouvoir au Parti communiste juste à ce moment-là, il va devenir le grand homme donc, du Parti communiste à partir de ces années-là, et puis à Mailly, il va y avoir cet enterrement manifestation dont on se souvient encore à Mailly. Alors, je vais te raconter juste une petite anecdote, c'est que en revenant à Mailly, quand j'étais en train d'écrire mon livre, j'ai rencontré une dame au bord du canal qui était là, qui avait 104 ans, à ce moment-là, je crois qu'elle est morte à 108 ans, et je lui parle. Et alors, ce qui était très frappant, c'est que d'abord, elle parlait de la manière que ma grand-mère, donc avec le même accent. Donc, ça, c'était très, très troublant. Et les mêmes tournures de phrases et le même vocabulaire. Donc, c'était très, très troublant. Elle avait connu ma grand-mère. Elle avait connu mon arrière-grand-père, Jules, etc. Et elle se souvenait parfaitement de l'enterrement de Camélina. C'est-à-dire que l'enterrement de Camélina en 1932 à Mailly, ça a été un événement évidemment tout à fait considérable où tout d'un coup on voit les Parisiens débarquer aussi. Bon, voilà. Voilà pour Camélina, donc, qui est restée donc, jusque dans les années 70, lorsque ma grand-mère me raconte en cousant toutes ces histoires, un peu le grand homme de ma grand-mère.
Peut-être nous écoutez-vous à Mailly-la-Ville ou à Vézelay sur le www.radion.fr ou sur le 90.5 à Migennes, à Saint-Florentin, à Bonnard ou à Cheny. En tout cas, merci d'être au rendez-vous de l'émission littéraire de Radion. Retour de Wagon Livre avec notre invité dans une poignée de minutes. Un extraordinaire voyage dans le temps et dans l'espace grâce au roman de Pascal Faudrier qui est ce soir devant le micro de notre rendez-vous culturel. Alors, on vous laisse en chanson, et alors là, j'ai choisi, ça va vous faire plaisir, je suppose, je l'espère, faites tout pour vous séduire, Pascal Faudrier. J'ai retenu Bella Ciao, interprétée par Lucila Galeazzi. Alors, Bella Ciao, c'est une chanson qui est née pendant la résistance contre les troupes nazi-fascistes en Italie. Elle a connu d'ailleurs un grand succès lorsque les étudiants italiens la chantèrent à Berlin en 1947 à l'occasion du premier festival de la jeunesse européenne libérée du nazisme et du fascisme.
Pour ajouter juste un mot, c'était aussi une chanson de paysan. Il y a deux types de paroles pour Bella Ciao. C'était aussi une chanson de paysan italien avant d'être une chanson de résistance.
Alors Bella Ciao, tout de suite sur Radion.
À la mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, alla mattina, appena alzata, in risaia mi tocca andare. Oh mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco. Ma verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ma verrà un giorno che tutte quante lavorere. Stamattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Stamattina mi son svegliato ed ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra d'un bel fiore. E tutti quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, e tutti quelli passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. E resta il fiore del partigiano morto per la libertà.
À l'instant, Bella Ciao interprété par Lucila Galeazzi. Vous écoutez Radion et vous voilà à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de votre radio locale. Nous accueillons ce soir Pascal Fautrier pour son premier roman Les Rouges. Une émission enregistrée le 27 juin dernier à la librairie L'Autre Monde et en public. Et le public est toujours là. Pascal Fautrier, on ne pourra pas ce soir, bien évidemment, explorer les deux siècles de cette histoire de la gauche révolutionnaire à laquelle vous vous êtes attelé avec beaucoup de travail. Vous avez travaillé plus de 3 ans alors sur ce roman.
Il y a des avant-textes qui datent des années. J'ai eu un premier projet en 1988. Des avant-textes qui datent de 1993. Donc c'est un très 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 vieux projet.
J'aimerais qu'on parle. Alors on a beaucoup parlé de Vézelay. Il y a le mythe d'une cité, c'est Migennes quand même. Les Migennois doivent être heureux. Alors c'est dommage, cette année, le maire Front de Gauche. Communiste, M. Meroun n'a pas été réélu. Ouais,
Alors je peux raconter peut-être que le 15 mai, il y a eu un événement assez étonnant à Migennes. Il faut que je commence par le début, mais je ne vais pas me mettre trop longtemps, ne vous inquiétez pas. En fait, il s'est passé une chose étrange avec ce livre, notamment le fait qu'une des préparatrices du manuscrit qui travaille pour le Seuil a une maison très près de Migennes. Et lorsque le livre, le manuscrit à l'époque lui est tombé entre les mains, elle a eu un coup de cœur pour le livre. Elle l'a fait, je ne sais pas si je peux le dire à la radio, mais allez, je vais le dire. Elle a même fait lire le livre avant qu'il paraisse à des gens dans Lyon. Et du coup, dès le mois de janvier, elle a voulu organiser à l'Escale, au cabaret à l'Escale à Migennes, une rencontre autour du livre. Alors à l'époque, moi je me suis dit, mais elle est complètement folle, il n'y aura personne, etc. Ça me paraissait un pari complètement fou, il m'a fait très très peur. Et puis ça s'est passé, et ça s'est passé d'une manière quand même assez stupéfiante, c'est-à-dire qu'il y avait 200 personnes, plus de 200 personnes, simplement autour d'un livre. Alors, je crois qu'en soi même c'est quelque chose quand même, un événement quand même assez surprenant. Et il y avait toute la gauche, je dirais la gauche non libérale, donc de la gauche du Parti Socialiste à l'extrême gauche. La gauche était réunie, la vraie gauche, c'est-à-dire la gauche, quoi. Elle était réunie ce soir-là, y compris le maire communiste qui venait de perdre les élections et le candidat socialiste qui avait également perdu les élections, mais qui sûrement l'avait fait chuter en partie, puisque en fait la question profonde de ces élections, c'est que les abstentionnistes ne se sont pas déplacés pour voter. Mais il y avait donc le candidat socialiste, le candidat communiste, qui est d'ailleurs quelqu'un qui était sensible à l'appel des 100 et à la fronde des députés socialistes, donc qui est parti de la gauche du Parti Socialiste. Il y avait des gens d'extrême gauche. On a chanté les chansons du livre et y avait, je pense, un esprit de fraternité assez étonnant qui nous manque aujourd'hui. Il s'est passé aussi une autre chose, c'est-à-dire qu'en fait, à Migennes, mon livre a résonné d'une manière particulière, puisque je raconte notamment comment mon père, dans les années 70...
C'est un gros dossier.
Oui, c'est un gros dossier.
Donc c'est Bernard, alias voilà. C'est bébé dans le roman. Que fait-on ? Est-ce qu'on parle un peu de cette cité de Migennes ? Est-ce qu'on parle justement de l'affaire de 70 avec Bernard, donc le père de la narratrice ?
Vous avez raison,
pour
revenir un peu en arrière.
Je ne sais pas, moi, c'est parce qu'on va être limité dans le temps.
D'accord.
Alors, je vous laisse le choix de privilégier ce que vous désirez.
Bah, on peut dire deux mots sur le fait que, bon, mon grand-père, donc, qui a rencontré ma grand-mère à Mailly-la-Ville, et qui s'est marié avec elle en 1932, qui a fondé la première cellule communiste de Mailly-la-Ville en 1932, entre en juillet 1936 au chemin de fer, et qu'il va se retrouver, bon, il était dès avant-guerre un dirigeant syndical à Cône-sur-Loire et résistant pendant la guerre, et nommé après-guerre à Migennes, dans la cité cheminote de Migennes, où il y a à l'époque encore des machines à vapeur. Et il va être le dirigeant local, politique et syndical, un des dirigeants locaux, mais enfin sans doute un des plus importants, dirigeant local de Migennes, qui est en effet la cité rouge. Je voudrais dire d'ailleurs à ce propos une chose qui me tient à cœur, à propos de mon grand-père, c'est-à-dire ces cheminots, qui étaient souvent donc des fils de paysans. Mon grand-père est né à Dampierre-sous-Bouy, dans le nord de la Nièvre.
C'était à Morvandieu, en fait.
À Morvandieu, hein, voilà. Donc pas loin d'ici non plus, du côté Nièvre. Ces paysans qui faisaient 70 km au nord pour se retrouver donc cheminots dans cette ville de Migennes. Côté marais, hein, vous savez, à Migennes, il y a les hauteurs, c'est-à-dire il y avait le village du Moyen-Âge. Et en fait, la gare et le canal sont construits dans les marais. Migennes, ça veut dire milieu des marais. Donc les Romains qui sont arrivés, on appelait ça Mitigana, ça veut dire milieu des marais. Et donc les ouvriers, fils de paysans, sont arrivés à Migennes dès le milieu du XIXe siècle pour être des canalous, travailler sur le canal, ou bien pour être des cheminots et travailler à la gare. Et ces canalous et ces cheminots ont très mauvaise réputation, c'est-à-dire que les paysans du cru en font des voleurs de poules. C'est-à-dire qu'on dit à peu près des cheminots et des canalous ce qu'on dit aujourd'hui des travailleurs immigrés à Migennes. Migennes est aujourd'hui toujours une ville ouvrière et une ville où il y a beaucoup d'immigration. Se dit des travailleurs immigrés aujourd'hui à Migennes, exactement ce qu'il disait à l'époque des cheminots et des canelous. C'était les gueules noires, ils n'arrivaient pas à se décrasser les ongles, ils sentaient mauvais, quand ils mettaient du linge sur les fils, ça devenait tout noir à cause des fumées, à cause des locomotives. Donc ils avaient cette réputation terrible, hein, d'être aussi des tueurs, de faire la bagarre, d'être alcoolique, de faire trop d'enfants, etc. Et ça a duré très très longtemps. C'est toujours présent dans les mémoires. Donc Migennes a toujours eu mauvaise réputation, et à l'époque, parce que c'était Migennes la Rouge et Migennes anticléricale. Bref, mon père est élevé dans cette ambiance après-guerre. Il vend l'humanité à l'âge de 4 ans ou 6 ans, je crois.
C'est un des plus jeunes vendeurs de l'humanité.
Sûrement. Bon, il y a eu d'autres, hein. Il y a eu d'autres enfants qui ont été élevés dans le même type de contexte. C'est pas non plus exceptionnel. Et lui, par contre, fait des études. Enfin, par contre, contrairement à mon grand-père, hein, qui était quasiment illettré, qui n'avait jamais lu Marx.
Il est brillant.
Je ne sais pas si mon grand-père était brillant.
Non, votre...
Mon grand-père était un militant politique brillant, quasiment analphabète. Et d'ailleurs, au passage, je voudrais dire deux choses. Un, que ce Morvandieu qui savait à peine parler français, moi je ne comprenais pas ce qu'il disait quand j'étais petite. Donc il a vécu toute sa vie avec cette réputation qu'ont aujourd'hui les immigrés. Donc il faut réfléchir à ça. Pourquoi ? Parce qu'il venait finalement, en ayant fait un peu moins de kilomètres d'eux, mais il venait aussi d'ailleurs, et il était quoi ? Il était un fils de paysan exproprié, exactement comme les immigrés d'aujourd'hui. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, c'est que on dit aujourd'hui il faut éduquer les gens, il faut leur apprendre l'histoire, je sais pas quoi, pour faire de la politique. Non, la politique, c'est chacun doit se prendre en charge pour faire de la politique. On est tous potentiellement citoyens, quel que soit notre niveau de culture. Et c'est pour ça que j'écris ce livre, pour dire qu'il y a des gens qui n'ont pas appris à lire à l'école, que c'est le cas de mon grand-père qui a été apprenti boucher à l'âge de 13 ans et qui a crevé de faim très tôt. Ces gens-là peuvent faire n'importe qui peut faire de la politique. La politique, c'est l'affaire de n'importe qui. Donc ça, c'est un des messages que j'avais à passer dans mon livre. Bref, par contre, mon père, lui, fait des études, il fait l'école normale d'instituteur, il lit Marx, du coup. Il lit même Staline dans le texte. Il lit tout ça. Et il se trouve qu'il adhère à 14 ans. En 14 ans, on est en 56. Premier problème en 56, la Hongrie. C'est-à-dire les chars russes dans Budapest. À l'époque, il a 14 ans. Dans ma famille, on ne sait pas trop, etc. Bon, voilà. Mais très vite, dès l'âge de 18-19 ans, il se rend compte qu'il faut réfléchir à des erreurs qui ont été commises du côté du stalinisme.
En fait, est-ce qu'il faut accepter la déstalinisation ou pas ?
Deux ans après 56, c'est le rapport Khrouchtchev, 1958. Et donc, les soviétiques eux-mêmes, par l'intermédiaire de Khrouchtchev, reconnaissent qu'il y a eu des crimes. Et tout d'un coup, c'est un choc considérable. Et mon père, dans le fond, comme jeune dirigeant communiste, va avoir affaire à cette idée qu'on peut avoir comme ça cette foi d'essayer de vivre dans un monde plus fraternel et plus juste, et puis en même temps, d'un autre côté, conforter un régime qui commet des crimes. Donc ça lui pose un problème dès le début, un problème terrible. Il va essayer de réfléchir, donc il va creuser théoriquement les choses, et il va se trouver assez vite en désaccord avec le Parti communiste, surtout lorsqu'il monte à Paris. Puisqu'à Migennes, ça se passe relativement bien. Lorsqu'il monte à Paris en 67, que là ça va beaucoup moins bien se passer, les chars russes entrent dans Prague en 68, il décide de ne pas reprendre sa carte, même si c'est très compliqué de quitter le parti quand on est né dedans. C'est très compliqué, c'est très douloureux. Et donc cette affaire de Lyon vient du fait que la Fédération de Lyon était majoritairement contre l'intervention soviétique à Prague. Donc elle était, y compris pour un soutien du printemps de Prague. Qu'est-ce que c'était le printemps de Prague, hein? C'était les ouvriers dans les usines qui essayaient de reprendre la main contre les apparatchiks qui leur avaient volé le pouvoir à la tête de l'État tchécoslovaque. Bien. Donc ils étaient même favorables au printemps de Prague. Et la direction du Parti communiste a voulu, disons les choses, liquider les opposants à la ligne du Parti communiste, qui était à l'époque, j'ai plus en tête la formule, mais c'est une formule un peu jésuite, on condamnait, mais on condamnait pas, quoi, complètement. Bon, et en tout cas, on s'opposait d'une manière très virulente encore à ce moment-là aux opposants. Du coup, mon père, qui était à l'époque monté à Paris, qui essayait de monter une revue pour réfléchir à la question du stalinisme, qui avait pris des contacts pour ça, continuait à être en relation avec les dirigeants de Lyon, notamment Jean Brigeois et Guy Lavra, qui est ensuite devenu le maire de Migennes, que tout le monde a connu. Et on lui vole des lettres. Et à partir de ces lettres, on monte une espèce d'improbable et farcesque complot interne, à partir du comité central, hein, là c'est vraiment une initiative parisienne, un complot farcesque, une idée de... Enfin, on invente le fait que mon père serait au centre d'un complot international contre le Parti communiste français.
Voilà. Un agent national et international
scissionniste. C'était la formule qui était employée dans les documents. Alors c'est mon père qui était allé aux archives récupérer son
dossier.
Son dossier. Bon, et donc il me l'a passé. Et donc pour restituer, parce que j'avais jamais vraiment compris moi dans le détail cette histoire qui était très douloureuse pour mon père. On t'y racontait des petits bouts, c'était un peu bon. Et donc je me suis appuyée beaucoup sur les archives pour vraiment restituer dans le détail de ce qui s'est passé. Cette affaire qui a un intérêt, pourquoi, en dehors du caractère local des choses, elle a un intérêt pourquoi, parce que là on voit très bien que le stalinisme c'est pas du tout une espèce de monstre de Staline monstrueux ou une espèce de personnalité monstrueuse qui tout d'un coup interviendrait comme ça comme des deus ex machina dans l'histoire. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des intentions bonnes et qui à un moment donné, pour des raisons de mécanique de pouvoir, font des choses qui, quelques centaines de kilomètres un peu plus à l'est, auraient conduit à la mort. On a souvent dit à mon père, si on avait été en régime communiste, tu aurais été fusillé.
Mais il dit, on n'est pas à Moscou, on est à Migennes.
Voilà, alors il essaye de réagir, il n'y arrive pas. Parce que la raison pour laquelle cette histoire a été si douloureuse, c'est que mon père n'a jamais pu s'exprimer. Pour en revenir à ce que je racontais tout à l'heure de cette soirée du 15 mai à Migennes, mon père s'est exprimé ce soir-là de manière très, très forte, beaucoup de colère. Ça a brisé sa vie, cette histoire, complètement.
Mais on est ému aussi quand les grands-parents, tout d'un coup, doivent quitter le PC. Ces gens qui ont donné de leur temps libre, de leur week-end, à distribuer des tracts. On se dit, mais abandonner tout ça,
c'était... L'intérêt de raconter cette histoire, c'est aussi de montrer que ma famille, dans le fond, ils sont restés communistes. Justement dans cette foi dont je parle, j'essaie de distinguer des mécanismes et des mécaniques de pouvoir, et à mon sens c'est important. Peut-être qu'on pourra finir là-dessus. Mais en effet, ils ont fait quelque chose qui est important à dire aussi. C'est-à-dire que précisément, ils n'ont pas joué le jeu. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas désolidarisés de leur fils. Ils ont quitté le parti. Et ça a été très, très, très dur. Mon grand-père aurait pu être conseiller municipal à Migennes. C'était son destin normal lorsque Guy Lavra est devenu maire de Migennes. Et il ne l'a pas été. Bon. Donc il a fait des choix qui ont... Cet ouvrier, ça aurait été pour lui une consécration de devenir conseiller municipal de Migennes. Ça aurait été quelque chose de...
L'aboutissement de combat.
Alors que du jour au lendemain, tout d'un coup, plus personne ne vous dit bonjour. Les vieux copains qu'on connaît depuis 40 ans, du jour au lendemain, vous disent plus bonjour parce que vous avez quitté le parti. Donc là, il y a une cassure qui était vraiment très très douloureuse. Et ce soir-là du 15 mai, donc, qu'on a vécu l'autre jour, il s'est passé comme une sorte de réparation. Parce que je n'ai pas écrit ce livre pour faire le procès de qui que ce soit. J'ai écrit ce livre parce que la gauche, elle est malade.
Ouais, mais c'était aujourd'hui. Aussi, vous avez expié les péchés de la gauche en écrivant ce livre. Un petit peu.
Je ne sais pas ce que j'ai expié moi, parce que je me sens peu de fautes sur le dos. Mais,
non, mais au moins celle de la gauche.
Oui, alors.
D'une gauche qui a dérapé.
Il s'agit de dire que, oui, je pense que la gauche, en effet, elle est malade du stalinisme, parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été regardé, justement dans les détails, dans la manière dont ça se passe, et qui n'est pas spectaculaire. C'est pour ça que j'ai voulu montrer comment ça se passe dans le tout petit détail. Ce n'est pas des choses spectaculaires. Du coup, on peut être vigilant. On peut construire une vigilance. On peut se demander ce que c'est que militer, ce que c'est qu'un parti politique, ce que c'est que la logique militaire d'un parti politique. Est-ce qu'un parti politique, ça doit être quelque chose où on doit être le doigt sur la couture du pantalon et être dans cette logique de pouvoir et cette logique. Mais c'est des questions auxquelles tout le monde réfléchit à gauche aujourd'hui. C'est quelque chose qui sont au centre de la réflexion, surtout plus municipale, à mon sens, aujourd'hui. Et je crois qu'à partir de il faut regarder en face ce qui s'est passé et tenter de le dépasser. Parce qu'on n'a pas regardé en face ce qui s'est passé, on n'a pas réussi à le dépasser et on est tous dans une impasse. Et dans une mélancolie et dans un sentiment que du coup il n'y a pas d'avenir et qu'il n'y a pas d'avenir de la gauche. Et on en est là. Donc mon livre, il a été écrit à la fois pour regarder dans le passé ce qui s'est produit réellement et puis en même temps pour tenter de débloquer cette blessure, de guérir cette blessure, cette mélancolie et de réouvrir un avenir en disant que ces combats qui ont été menés, ils ont eu des victoires et que ces victoires, il n'y a pas de raison qu'elles ne continuent pas à arriver. Et que 81 aussi, contrairement à ce qu'on a dit, ça a été une victoire. Ça n'a pas été recouvert par 83, c'est pas vrai. Donc il y a des victoires du mouvement ouvrier, on peut les dater, elles existent, et elles peuvent continuer d'arriver. Donc mon livre est vraiment écrit pour ça, pour montrer que ce chemin, il continue, et que simplement il suffit de continuer le combat en cédant pas à cette espèce de... à ces sirènes qui nous expliquent que tout ça, c'est du passé.
Une émission presque militante ce soir. Nous allons marquer une dernière pause musicale, on conclura juste après. Une grande dame de la chanson française, Pascal Foutrier, nous a quittés en 2011. On l'appelait la Dame Blanche de Saint-Germain-des-Prés. C'est Cora Vauquer et elle nous interprète la complainte de la butte.
En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnue un matin de printemps l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protège les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui.
Plus de 500 pages qui racontent la grande histoire des Rouges de la Révolution de 1789, en passant par 1830, 1848, la Commune, le Front Populaire, la Résistance, mais aussi l'histoire de l'engagement de toute une famille aux côtés du Parti communiste, les grands-parents, Madeleine, Camille, le fils, donc Bernard, bébé, et la petite-fille, Madeleine, la narratrice donc, de ce roman fresque qui déroule deux siècles de la conscience de gauche. Ça va jusqu'au procès de l'AMNEF en 2006, la naissance du Front de Gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qu'une conscience de gauche? Vous l'avez presque un petit peu expliqué juste avant la pause musicale, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de Guy Môquet. Chez vos grands-parents, il y avait le lit en fer blanc de Guy Môquet? C'est authentique?
Non, c'est tout à fait authentique.
Ouais. Et donc le portrait en velours de Staline également, pour les 70
toujours,
ans du petit père des peuples.
Montré, ah oui, au CRTV. On peut le voir.
Ah
sur
bah alors, on regardera le reportage.
De CRTV, on peut le voir. On peut le voir dans ce reportage.
Donc chez vos grands-parents, il y avait le petit lit.
Qui est à Champigny-sur-Marne maintenant, puisqu'il y a un musée là-bas. Je suis jamais allée, il faudrait que j'y aille d'ailleurs. Et en effet, dans le grenier, il y avait Guy Môquet pour une raison, c'est que Prosper Môquet venait chez mes grands-parents dans les années 50, il était député de Lyon communiste, et il avait perdu ses deux fils pendant la guerre. Ma grand-mère venait d'ailleurs perdre un nourrisson également, donc il y avait des choses qui les rapprochaient. Bref, enfin, c'était à la fois un ami, puis c'était quelqu'un, Prosper Môquet, qui avait le même profil que mon grand-père. C'était un aiguilleur, c'était un homme du peuple. Ils avaient la même manière de se mettre en colère toutes les 10 secondes et d'être des gens très, très irruptifs. Et voilà, donc ils étaient, quand ils venaient à Migennes, ils couchaient aux cités et les réunions avaient lieu aux cités. Mes grands-parents n'avaient pas encore la maison Henri-Édouard Vaillant et ils couchaient aux cités. D'où le fait que Prosper Môquet avait en effet donné ce lit. Alors il n'a pas donné mon grand-père, il était d'abord au local du parti. Puis à un moment donné, il y a le local du parti qui a été déménagé, je crois, en 1956. Et voilà, le lit Guy Môquet s'est retrouvé à la maison.
Alors, on arrive presque au terme de l'émission. On pourrait prendre plein de personnages, tellement ils sont nombreux dans le roman. Mais vous écrivez « Quand je pense », donc à propos de Guy Môquet, « Quand je pense qu'un président de la République très à droite a osé s'approprier cette lettre, la fameuse lettre de Guy Môquet, dont disait Madeleine à JC, la mémoire de Guy Môquet n'appartient pas à tous les Français, elle appartient aux Rouges. » Absolument. Vous voyez quand même aussi que vous laissez entendre qu'il y a un petit pan de l'histoire de France qui n'appartient pas à tous les Français, elle
absolument,
appartient aux Rouges.
Absolument, parce que pas tout le monde a résisté, parce que pas tout le monde a été dans le même camp. Et donc Guy Môquet, c'était un fusillé. Tout le monde n'était pas dans le camp de Guy Môquet, très, 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 très loin de là. Bon, la résistance, elle devient importante très tard, à partir de janvier 44. Auparavant, il y a une toute petite minorité de gens qui résistent. Et il y a une toute petite minorité. Et les communistes se font casser la figure, se font fusiller, notamment à Migennes, parce qu'ils sont communistes. Parce que le Parti communiste est interdit à partir de 39. Hein. Bon, c'est des choses qu'il faut impérativement rappeler. Et les Français, dans leur très très grande majorité, jusqu'en 43-44, sont contre les résistants qu'ils appellent des terroristes. Bon, donc voilà, il y a deux France. Et aujourd'hui, de nouveau, il y a deux France. Et je suis désolée d'avoir à le rappeler. Hein, c'est-à-dire que c'est comme ça, c'est un fait. C'est pas un jugement idéologique, c'est un fait. Il y a des gens qui étaient d'un côté et des gens qui ont été de l'autre. C'est comme ça. Il faut regarder comment les choses se sont passées dans nos propres familles. C'est intéressant. Là encore, il ne s'agit pas de faire des procès. Il s'agit juste de regarder l'histoire.
Alors on ne pourra pas parler de cette classe ouvrière regardée comme un peu ringarde et qui vote quand même aujourd'hui Front National plutôt que Front
Alors,
Gauche.
Faux. Absolument faux.
C'est une vraie question, ça.
Non, oui, c'est une vraie question, sauf que c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on regarde les chiffres, ce sont les ouvriers traditionnellement de droite essentiellement qui votent Front National, les partis de droite presque aucun ouvrier ne vote pour les partis de droite. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une radicalisation à droite des gens de droite. D'une manière générale, c'est ce qui se passe dans ce pays. Radicalisation à droite des gens de droite et abstentionnisme de gauche massif. Notamment abstentionnisme massif des ouvriers. Totalement massif. Donc là, on tronque les chiffres. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je ne nierai pas que par contre, et c'est pour ça que j'ai parlé de mon grand-père qui était un immigré, mais en grandio, qui ne parlait pas le français en un sens, c'est qu'il y a un racisme énorme qui touche absolument toute la population et que lorsqu'on est un français relégué, que plus personne ne va voir, qu'on travaille dans des usines ici, par exemple, dans Lyon, où il n'y a pas un syndicat, où les choses se passent d'une manière extraordinaire, c'est-à-dire avec aucun droit social, aucun contrôle, notamment aucun contrôle, il y a des usines d'aluminium, il y a des usines de tout hein, dans la région, il y a des gens dans ma famille qui y travaillent, les gens meurent à 55 ans de cancer, personne ne s'en occupe. Bon. Donc lorsqu'on est dans cette situation de relégation, où plus aucun parti politique vient vous voir, eh bien on a tendance, c'est très humain, à se démarquer de celui qui est encore plus mal loti, et qui vient d'encore plus loin, et qui est, bon, et c'est comme ça que ça se passe, c'est malheureux, et je dis des choses là-dessus à la fin de mon livre. J'ai écrit notamment ce livre, compris par rapport à des gens de ma famille, je veux dire, précisément pour dire qu'il faut avoir une vision autre des choses, il faut se rendre compte que ces immigrés, ce sont les mêmes que mon grand-père. Mon grand-père le savait, puis ça s'est perdu. Je ne sais pas pourquoi ça s'est perdu. Ça s'est perdu parce que dans le fond, il n'y a plus de politique. Parce que par contre, parce que les gens ouvriers, parce que les gens qui sont victimes de cette société où les trois quarts des gens gagnent moins de 2500 euros par mois. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont en situation de contrainte sociale extrême. Les trois quarts des gens, 2500.
2500.
Mais oui, les trois quarts des Français sont des salariés. Sont des salariés modestes. Les trois quarts des Français. Et subissent. Et
1600 euros
non,
par mois, vous
la voulez. Moitié, 1600. Mais les trois quarts, 2500. 2500, je ne sais pas exactement, je ne sais plus, mais les trois quarts, je parle des trois quarts. Bon, donc les trois quarts des Français sont des salariés modestes qui subissent cette société davantage qu'ils n'en ont, des bénéfices. Voilà. Donc on en est là avec une très très grande tension sociale. Et il faut rappeler que c'est la même chose sur toute la Terre, c'est-à-dire qu'il y a une minorité de gens qui possèdent les ressources de la planète. Ce sont ces gens-là qui gouvernent, ce sont ces gens-là qui font des profits avec les ressources de la planète. Vous savez qu'il y a 10% des humains qui possèdent 80%, je crois, des ressources, je sais plus, c'est à peu près ça, et qui nous emmènent dans le mur sur tous les plans, social et écologique. Il faut qu'à nouveau les salariés aient voix au chapitre sur le plan politique. Vous savez qu'on est gouverné, et notamment du point de vue de la représentation, par des gens qui font partie des 10% des Français les plus riches. C'est un problème.
On va être obligé, en tout cas, on va poursuivre la conversation au-delà de l'émission, pour se plonger dans l'histoire de la gauche révolutionnaire de 1789 jusqu'au mitterrandisme, en passant par les révolutions que j'ai déjà mentionnées, eh bien, il convient de se plonger dans Les Rouges. C'est le titre du roman fresque de Pascal Foutrier aux éditions du Seuil. Avant de nous quitter, je voudrais signaler la parution du dernier numéro du magazine associatif Vent du Morvan. C'est le numéro 51 d'été de cet été, avec un formidable dossier sur le Vézelien et sur la colline éternelle, sur Vézelay. Il y a d'ailleurs... alors, je ne peux pas décliner, mais enfin, bien sûr, il y a un dossier sur la basilique, il y a un dossier sur les cabanes du Vézelien, sur la nature et la forêt du Vézelien. Il y a une interview du maire d'Aquin, Isabelle Georgelin, un dossier sur la chapelle de la Cordelle, la maison Jules Roy, avec un texte signé d'Emmanuel Schwartz. Et puis, on nous parle aussi de Christian Limousin, de Bourgogne-Vézelay. Et puis, je voudrais aussi dire à nos auditrices et auditeurs, signaler le grand rendez-vous du lire et de l'écrire. C'est les 5, 6 et 7 septembre prochains. C'est à Vézelay, des tables rondes, des entretiens, des lectures, des expositions, des concerts qui auront lieu à la Maison Jules Roy, au Centre Sainte-Madeleine, à la Cité de la Voix et dans tout le village. Avec Pascal Foutrier et plein d'autres. Voilà, on a passé le message. Geneviève Pascot en face de moi est heureuse, mais on aura l'occasion de reparler de Hervé L. Merci à vous, le public. Merci, Pascal Foutrier, d'avoir été. Merci à vous et merci à nos libraires qui nous accueillent. Bonne soirée sur Radio. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau rendez-vous de Wagon Libre.